Dès le commencement, le Créateur a mis dans la main de la femme le destin de l'humanité. Christine d'Asbourg, cette phrase vous a percuté il y a quelques années. Racontez-nous.
C'était, je crois, dans l'année 2000, à Rome, à un congrès. Et c'était la dame qui dirigeait ce congrès, qui s'appelle Marianne Glendon. Elle est maintenant ambassadrice au Vatican. Elle nous a lu ou raconté cette phrase que Jean-Paul II avait écrite, dit, mentionné dans son Mulieris Dignitatem. Et après ça, cette même dame nous a dit, vous les Européennes, vous dormez, vous êtes endormies, vous êtes paralysées, vous ne bougez pas. Et voyez-vous pas que votre pays est dans un grand problème? Il faut bouger, il faut faire quelque chose. Ça m'a vraiment bousculé le cœur. Il faut faire quelque chose. Depuis là, pas seulement moi, mais un nombre d'autres femmes, on s'est mis à parler du sujet de la femme dans nos pays.
Avant que vous ne continuiez, oui. Christine de Habsbourg, de quel pays êtes-vous? Dans quel pays rayonnez-vous?
Je suis née en Allemagne de père allemand, mère italienne. Alors je suis, disons, moitié allemande, moitié italienne. Je vis au moment avec ma famille, soit en Autriche, soit en Hongrie.
C'est oui. Là votre terrain d'action?
Plutôt, disons, le thème femme, c'est plutôt dans les pays de langue allemande. Parce que là, c'est vraiment nécessaire. J'ai découvert que dans le pays de langue allemande, surtout l'Allemagne, mais aussi l'Autriche et encore plus la Suisse, il y a une grande confusion dans les têtes des femmes qui ont perdu, disons, la fierté d'être une femme et une mère. Et ils sont vraiment tombés dans le piège du féminisme et ça leur a donné comme un complexe. Être mère est devenu réellement un manque de caractère, un manque d'intelligence. La manière comme la maternité est vue dans ces pays-là, surtout pour les jeunes femmes, ils font cette expérience, c'est dramatique. Parce que la femme qui est admirée est seulement la femme qui a une carrière, qui est indépendante, qui n'est pas liée soit par un mari, soit par une famille ou des enfants. Et je rencontre tout le temps, dans les conférences que je fais ou les séminaires que je fais, de jeunes femmes qui en souffrent énormément, comme une jeune femme, par exemple, à Düsseldorf, qui m'a dit qu'une jeune fille très belle, très élégante, dans la compagnie où elle travaillait, après qu'elle était mariée, elle attendait son premier enfant, elle a annoncé ça à son chef, toute contente, et lui l'a regardée et dit « mais je croyais que vous étiez intelligente ». Et ça, c'est arrivé il y a quelques mois. Et ça, c'est une expérience normale pour les jeunes femmes qui sont dans des compagnies qui travaillent aujourd'hui. C'est ça qu'il y a quelque chose d'horrible qui est arrivé dans la tête. Il faudrait toute une conférence pour expliquer. Je connais toutes les racines entre-temps. Mais voilà, il y a une maladie dans la tête où je vois que moi, l'unique manière pour sauver cette génération, c'est de leur réveiller de nouveau le feu qu'ils ont dans leur cœur.
En Hongrie, par exemple, le problème n'est pas le même.
Non. Alors là, je me demandais au commencement pourquoi c'est tellement différent. Et je crois que, disons, l'unique bénédiction du rideau de fer était que les mensonges des années 68 ne sont pas passés par le rideau de fer. Ainsi, les pays de l'Est, pas seulement l'Hongrie, la Slovaquie, très fort, la Pologne, bien sûr, ils ont gardé les valeurs de la famille, la relation parents-enfants. Je vois les jeunes gens qui obéissent à leurs parents, les jeunes hommes qui obéissent à leur père, mais d'une manière tout à fait naturelle. Ils respectent le professeur à l'école. Il y a simplement les valeurs de base de famille, mère, père, enfant, cette relation-là, et aussi le respect pour l'Église est là. Et ils ont combattu sous le communisme pour sauver leurs valeurs. Ils ont réussi. Ils ont pris un tas d'autres problèmes, bien sûr, qui sont restés après le communisme. Mais dans ce sens-là, ils sont beaucoup plus riches que nous dans l'Ouest.
Malgré le communisme, ils ont su garder des valeurs essentielles.
Oui. Absolument.
Et ils n'ont pas été atteints, comme d'autres pays, par toutes ces valeurs du féminisme?
Non, absolument non. C'est nouveau pour eux. Et c'est pour ça que mon travail dans ces pays-là, c'est de prévenir les femmes et de dire ne tombez pas dans le même piège.
D'anticiper.
Oui. Je dois anticiper et leur apprendre où sont les dangers, parce que à ce danger-là, ils ne sont pas préparés.
Par exemple? Où sont les dangers?
Disons, l'image de la femme qui est libre, qui considère la maternité un piège, qui considère la famille un boulot problématique, qui considère le mariage une chaîne que la lie. Pour eux, c'est nouveau. pour un Hongrois, aussi pour un Slovaque, encore plus. La famille, c'est une richesse. Les enfants, c'est un cadeau. C'est comme ça. Mais pour nous, c'est un langage qu'on n'entend presque plus. Alors moi, je vois la grande chance des pays de l'Est, la richesse qu'ils ont d'apporter ça dans nos pays du Ouest. Mais ils doivent apprendre, discerner. Où est le danger? Où est-ce qu'il y a un piège? Parce qu'ils ne connaissent pas le langage, ils ne connaissent pas le trick, disons, de ce qui vient de l'Ouest. Ils ne sont pas préparés à ce danger-là.
Alors, comment est-ce que vous le communiquez? Pour vous, quels sont les pièges?
C'est très difficile à dire. Je crois surtout qu'en Allemagne et en Autriche et en Suisse, ce que je fais, c'est de raconter aux femmes qu'est-ce qu'ils sont. Et de leur expliquer la merveille de cette création femme.
Vous leur transmettez leur identité.
Voilà, oui. Et ce que me rend très optimiste, ce que je vois, que même dans des jeunes femmes complètement confused, hein, comment on dit ça,
confuses,
ils entendent ce mot-là de la beauté de la femme qui, disons pour moi, est une collaboratrice très étroite du Créateur. Hein. Et quand je le raconte, est-ce que vous êtes consciente que le Seigneur dépend de votre oui s'il veut créer un nouveau homme, une nouvelle femme, s'il veut créer un enfant, il se rend dépendant de votre oui. Mais c'est une prédilection incroyable. Ça rend la femme collaboratrice très étroite du Seigneur. Il a une énorme confiance dans la femme. Et un vieux prêtre que je connaissais, dans une très belle lettre, a dit que le secret pourquoi Dieu a créé la femme, c'est pour que les hommes puissent voir, toucher, connaître ce que Dieu veut dire quand il dit amour. Et il explique la manière comme une mère aime, comme elle va se lever 4 fois la nuit si l'enfant crie, pas parce qu'elle se sent bien en faisant ça, mais parce que c'est son enfant. Alors il dit toujours, c'est ce que Dieu veut dire quand il dit amour. Et puis il parle d'un fils qui était parti pendant des années et finalement il retéléphone. Il dit, je ne connais pas une seule mère qui dirait dans ce moment-là, pourquoi est-ce que tu n'as pas téléphoné? Elle va lui dire, mais quand est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu veux manger? Il a dit, c'est ça que Dieu veut dire quand il dit amour. Alors, il explique que la femme a ce magnifique, disons, charge d'être un canal pour l'amour de Dieu qu'il a pour les hommes. Et pour que les hommes puissent voir ce qu'il veut dire quand il parle de l'amour. Et quand on raconte ça aux femmes, on voit, et c'est toujours l'expérience, comme si je mets une fleur déjà un peu demi-morte dans un verre d'eau, et commence à refleurir. C'est ça qu'on voit dans les yeux de femmes, jeunes ou âgées, quand on leur re-explique la merveille qu'est une femme, c'est cette création précieuse. Et le cœur d'une femme, pour moi, c'est la plus belle création qui existe.
Et pourtant, voilà. La fécondité n'est pas liée seulement à la maternité.
Non. Pour moi, j'ai découvert, j'étais toujours, c'est ma découverte, mais beaucoup de gens l'ont découvert avant moi, une femme née comme mère. Une femme, si elle a 3 ans, 23 ans, 83 ans, elle est mère. Même si jamais elle aura un enfant. Elle a ça dans les gènes, elle a ça dans son sang. Elle est une mère, simplement. Elle a ce sens de découvrir le cœur de l'autre, de savoir comment un autre se sent, s'il est content ou non. Elle connaît le mot qu'il faut dire pour rendre content quelqu'un qui est triste.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'un petit garçon, qu'un jeune homme, qu'un vieillard a toujours la conscience de pouvoir être un père?
Dans les petits garçons, il y a beaucoup. Pas seulement le père, il y a le guerrier, il y a le protecteur, il y a le combatteur.
Parce que les deux sont liés. L'identité de la femme est aussi liée à l'identité de l'homme qui aujourd'hui, dans certains pays, est en train de se perdre.
Oui, et voilà, c'est exactement le résultat de la confusion de la femme et la confusion chez l'homme. Et c'est ça que je vois dans le pays. Disons, soi-disant de l'Est, alors le pays qui était sous le communisme, derrière le rideau de fer, ils n'ont pas perdu cette identité. Ils ont exactement leur rôle d'homme, de père, d'époux, très fort, et les femmes sont très conscientes de leur valeur, de leur identité. Ils n'ont pas perdu. Alors là, pour moi, c'est l'espérance pour l'Europe, et exactement que les gens de ce pays-là, il faut leur donner le courage de lever la tête, de dire nous avons quelque chose que vous n'avez pas, on peut apporter ça. Et je vois que chez nous, disons chez nous dans l'Ouest, ce secret-là est quand même dans le cœur. Parce que je vois des jeunes filles qui sont complètement confuses, mais quand on leur raconte qu'est-ce que c'est une femme vraiment, qu'est-ce que t'es le projet de Dieu avec la femme, quelle est la mission de la femme, quand on leur raconte ça, ils viennent chez moi, ils me disent, là, tout à fait au fond de mon cœur, je sais. C'est ça la vérité.
Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas aussi faire la même démarche pour les hommes ? La vocation de l'homme aujourd'hui.
Oui, absolument. C'est un grand, grand besoin. Il y a une maladie chez les hommes, une maladie de ne plus trouver leur place. Ils ne savent plus où il est, comment agir, et ça porte vraiment un grand complexe, un grand problème pour les hommes. Mais de nouveau, je dois dire qu'il y a un renouveau chez les tout jeunes. Il y a absolument un renouveau. Ils n'en veulent plus de ces histoires-là. Ils me disent, c'est ça, sont les histoires de mes parents. J'en veux pas. Seulement, je veux réussir ma vie, mais j'ai perdu la recette. Je ne sais plus comment faire. Ils veulent connaître la vérité. Il y a une grande soif de connaître la vérité. Et le plus droitement qu'on leur raconte la vérité magnifique sur plan de Dieu, avec la femme et avec l'homme, le plus ils sont contents et ils ressentent l'écho dans leur cœur. Ils me disent, je le savais toujours, mais j'ai besoin de formation pour revivre cette vérité. Alors là, il y a une grande espérance.